OK, donc on vient de lire Jérémie 9, 17, 9 et 10. Vous pouvez prendre l'avance et tourner dans 2 Rois, chapitre 2, pendant que je vous dis juste quelques petites choses par rapport au thème de juillet. Le thème de juillet, vous le voyez sur le calendrier, Dieu révèle ce qui est dans les cœurs. Et c'est pour ça que je voulais qu'on lise Jérémie 17, verset 9, mais surtout verset 10. Hein? Dieu sonde les cœurs et les reins. Et je voulais aussi qu'on lise le verset 9. Pourquoi? Parce que si Dieu sonde nos cœurs puis révèle ce qu'il y a dans les cœurs, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que tout soit beau puis tout soit parfait puis que Dieu va nous donner une bonne tape dans le dos puis dire « Wow, t'as un bon cœur. » On entend ça dans le monde, hein? Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit « Non, le cœur est méchant, il est tortueux. Qui peut le connaître? » Mais le texte sur lequel on s'arrête aujourd'hui, et je crois vraiment que c'est là que le Seigneur nous dirige ce matin, nous amène glorieusement à Jésus-Christ, celui qui prend des cœurs de même tortueux, méchants au-dessus de tout, et qui les transforme pour sa gloire. On va aller devant un texte qui nous amène un portrait de Jésus-Christ et de son Église d'une façon vraiment unique. Vous savez que Christ est dans toutes les Écritures. C'est ce qu'il a dit aux disciples d'Emmaüs. Elle rend témoignage de moi et partant des Écritures, il leur a tout expliqué ce qu'il concernait. Et vraiment, on le sait ici d'une façon unique avec le passage qu'on a lu dans 2 Rois 2, l'enlèvement d'Élie, et là, Élisée, le début de son ministère. Il y a des leçons riches là-dedans. Alors, on ne va pas lire pour tout de suite en détail, mais juste pour vous dire que dans 2 Rois 2, il y a plusieurs points, comme d'ailleurs beaucoup d'endroits dans l'Ancien Testament, qui préfigurent Christ. Et pour être plus précis ici, Élie préfigure Jésus-Christ en ce qu'il est enlevé au ciel, n'est-ce pas? Comme Christ a été enlevé au ciel. Et il laisse sur terre celui en qui il s'est investi et qui, dans le fond, lui confie la relève de son œuvre. Exactement comme Christ avec l'Église, n'est-ce pas? Donc, Élisée est un type de l'Église. Élie est un type de Christ. Et par la suite, on voit Élisée, le type de l'Église, qui marche dans les traces de son maître. Et qui reproduit ses miracles, OK, il sépare le Jourdain, mais il fait 2 fois plus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il nous dit, Jésus, dans Jean 14, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et donc, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 9 ici, dans 2 Rois. Parce qu'on voit quelque chose ici, ça dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit, donc, il a passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Qu'est-ce qu'on voit qui se passe ici? La réponse à la demande d'Élisée, c'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on voit l'Église faire dans le livre des Actes? Jésus a dit, allez, attendez que la puissance de Dieu soit revêtue sur vous. Il priait pour l'accomplissement de la promesse. Il attendait que le Saint-Esprit descende. Et on sait, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont prêché, il y avait une grande assurance. Donc, voyez-vous comment c'est incroyable? C'est vraiment un type de Christ et de l'Église. Et évidemment, donc, il y a une valeur prophétique à tout ça, mais n'oublions pas que c'est une réponse à la prière. Ici, Élie a demandé que j'aille le double de ton esprit, et ça l'a révélé ce qui était dans le cœur d'Élisée. Pourquoi? Parce que un peu comme avec Salomon, qui n'a pas demandé la gloire, les richesses, la victoire sur ses ennemis. Lui, il a demandé ce qui était l'essentiel, l'esprit à l'œuvre. Et je pense que si on fait parallèle maintenant avec notre situation, je crois que Dieu a utilisé, spécialement l'année 2020-2021, pour révéler ce qui est dans le cœur de l'Église. C'est le titre de mon message. Autant que les circonstances ici ont révélé ce qui était dans le cœur d'Élisée, hein, il voulait marcher dans les traces, il voulait ce qui est spirituel, il voulait ce qui glorifie Dieu. Ben, de la même manière, Dieu a utilisé la dernière année et demie pour révéler ce qui est dans le cœur de son Église. nous révéler notre propre cœur. Puis c'est pour ça que j'ai commencé dans Jérémie. Pas parce, parce qu'il nous a révélé notre incrédulité, notre insensibilité, le fait qu'on est amorphe, qu'on est apathique. Et donc Dieu nous a appelés à la repentance, à retourner à lui. Et Dieu n'a pas fini. Il a commencé quelque chose qui continue. Dieu continue cette œuvre de révélation du cœur de son Église avec toutes sortes d'épreuves qu'il permet, mais aussi même avec des assouplissements. Savez-vous qu'en ce moment, on peut retomber dans le piège. Là, maintenant, ça s'assouplit, c'est plus facile, puis il n'y a plus... On peut retomber dans ce qu'on a, de ce que Dieu nous a sorti il y a un an et demi. Dieu révèle ce qui est dans le cœur de son Église. Il l'a fait, puis il continue de le faire. Et que Dieu nous préserve de la tentation de retourner à l'apathie, duquel Dieu, dans sa bonté, sa fidélité, nous a sortis. Au lieu d'être négligent et de retomber dans le piège d'avant 2020-2021, Dieu nous appelle à veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Écoutez aussi ce que Jésus a dit dans Jean 15. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous aussi rendez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et donc c'est vivre à la lumière du fait que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls, il nous a donné son Esprit, puis son Esprit nous dirige à toujours le glorifier, lui, pointer à lui. Encore un autre passage dans le même... Je viens de citer Jean 15, 26 à 27. Écoutez au chapitre 16. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, c'est la réponse à la prière. C'est la réponse ici à la prière d'Élisée. Savez-vous que c'est la réponse aussi à l'Église de Jésus-Christ? Jésus-Christ, quand il a dit, là, c'était pas parabolique, là, quand il dit, ou allégorique, je devrais dire, quand il dit que si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui leur demandent? Savez-vous que la réponse ultime à toutes nos prières, c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui convainc les perdus, quand on prie pour des perdus, c'est le Saint-Esprit la réponse. Toutes nos angoisses qu'on peut avoir, nos problèmes physiques, c'est qui? C'est Dieu, le Saint-Esprit lui-même qui est la réponse. C'est lui qui intervient, c'est lui qui répond à la prière. Et donc, il y a vraiment des parallèles, et c'est ça que j'aimerais qu'on voit. Pourquoi? Parce que, au lieu de s'arrêter sur simplement la révélation, je dirais, adamique, de Jérémie 9, que le cœur de l'homme est méchant au-dessus de tout, qui peut le connaître, hein? Notre nature adamique, c'est ça. Dieu ne nous flatte pas dans le sens du poil, il nous dit la vérité telle qu'elle est. On le connaît bien, on le connaît même peut-être trop bien. Mais j'aimerais... Puis ça, on voit ça dans le monde, mais malheureusement aussi, on a vu que Dieu a révélé ça dans nos églises. Mais j'aimerais ce matin qu'on s'arrête sur ce que Dieu révèle à nos cœurs par le Saint-Esprit ici, sur Jésus-Christ, pour sa gloire. Je veux qu'on voit trois révélations glorieuses ce matin du cœur de l'Église. D'abord, dans les versets 9 et 10, ça nous dit que lorsqu'ils eurent pensé, ok, bon, là, le Jourdain était séparé, il passe. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. D'abord, on a la révélation de la foi de Jésus-Christ. Révélation de la foi de Jésus-Christ. Et je vous explique. Tout comme ici, Élie a suscité la foi d'Élisée en lui posant une question. Demande ce que tu veux. Il suscitait sa foi. Demande ce que tu veux. Mais de même, Jésus suscite la foi de son Église en le mettant à l'épreuve. En mettant son Église à l'épreuve. N'est-ce pas ce que Pierre nous rappelle? Que l'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Jésus nous éprouve pour voir où est notre foi. Et ici, il y avait une question que Élie a posée à Élisée. Jésus nous a posé la question, qu'est-ce que tu fais lorsque je t'éprouve? Où est ta confiance lorsque je te fais passer comme une année et demie par laquelle je t'ai fait passer? Était où ta confiance avant? Pourquoi? Parce que vraiment, Dieu veut nous révéler où est notre confiance. Est-ce qu'elle est en nous ou est-ce que réellement elle est en lui? Est-ce qu'on joue à l'église ou est-ce qu'on suit notre tête de l'église? On peut savoir, on peut reconnaître si réellement on a la foi de Jésus-Christ ou une simple foi religieuse, naturelle, qui professe Christ, mais qui ne demeure pas en lui. Écoutez encore dans Jean 15. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Une foi qui porte du fruit, une foi vivante. N'oublions jamais que la foi de Jésus-Christ est surnaturelle. Ce n'est pas une origine humaine, c'est une origine divine. Pourquoi? Parce que du cœur humain, on l'a vu, il n'y a rien de bon qui sort, il est méchant, tortueux. Ça prend la grâce de Dieu. D'où vient l'idée dans nos milieux chrétiens que la foi est logique et naturelle? Ça vient d'où cette idée-là? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du cœur de l'homme. Laissez-moi vous expliquer. L'homme, dans sa religiosité, dans sa nature pharisienne, a une foi, on croit dans des choses, puis tout ça. Mais savez-vous que ce n'est pas la norme, quand on regarde la Bible, la foi qu'on voit, ce n'est pas une foi naturelle, ce n'est pas une foi ordinaire. Dites-moi ce qui est naturel, ce qui est logique dans la foi d'Abraham, de tout laisser, puis de s'en aller où il ne savait pas, d'être vieux comme il était, puis sa femme comme lui, puis d'avoir un enfant. Moïse, de tout quitter, les plaisirs du monde pour subir l'opprobre de Christ. David, un petit gars qui était dans le champ à surveiller des brebis, aller devant un géant avec une fronde. Il avait la foi en l'Éternel. Il dit, j'y vais au nom de l'Éternel. C'était ça, sa foi. Daniel et ses amis, fosse au lion, fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il y a de logique et de naturel là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de logique et de naturel quand on voit la compagnie apostolique, les disciples de Christ dans le livre des Actes? Qu'est-ce qu'il y a de logique et de naturel? Il n'y a rien de tout ça qui est logique et naturel. C'est surnaturel. La foi de Jésus-Christ, elle est surnaturelle de nature. Et dans la vie des enfants de Dieu, dans le corps de Christ, il n'y a rien qui peut remplacer la foi qui est surnaturelle. Parce que si la foi n'est pas surnaturelle, si elle n'est pas d'origine divine, alors c'est une foi vaine. Comme ça dit dans Corinthiens, au chapitre 15, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et donc notre foi est vaine. » Notre foi vient d'événements surnaturels. Dieu fait homme, il a vaincu la mort sur la croix, il a vaincu la mort par la résurrection, et notre foi en ça, tout est surnaturel. L'objet de notre foi est même l'origine de notre foi. Et donc, je pense qu'avec ce que Dieu nous a fait penser à travers, Dieu nous a, dans sa grâce, nous a amené à quitter le domaine de la théorie chrétienne, puis nous a contraints à la pratique, parce qu'il voulait révéler où est notre confiance. Regardez dans le verset 10. Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai dans le vide avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Élie dit à Élisée, « Tu demandes une chose difficile. » Savez-vous que ça démontre d'où est la foi ici d'Élisée? Ça nous montre que si on connaît ou si on croit au Dieu de l'impossible, savez-vous, quand on voit le Dieu de la Bible, c'est carrément le Dieu de l'impossible. C'est pas un Dieu qu'on peut mettre dans une petite boîte, puis qu'on peut tout expliquer, puis qui fait juste des affaires ordinaires, qui donne un petit coup de main aux religions humaines. Non, c'est le Dieu de l'impossible qui fait des choses impossibles. C'est le Dieu qui restaure les relations les plus scrap, pour prendre une expression québécoise, les plus brisées, puis qui les, pas juste qui fait juste les faire passer la barre du acceptable, qui les remet sur une toute nouvelle tangente qui brise le vase puis qui en fait un nouveau. Le Dieu qui prend le marteau de sa parole pour briser le cœur le plus dur, le cœur de roc, le cœur de pierre, puis qui en fait un adorateur du Dieu vivant, qui aime Dieu, qui prend plaisir en Dieu. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Est-ce que l'impossibilité, ou pour le Dieu, est-ce que l'impossible bloque ta vie? Est-ce que c'est un frein à ta foi? Est-ce que face à l'impossible, tu vois l'impossible et tu ne vois pas le Dieu de l'impossible au-delà? Parce que, mes amis, si notre foi est bloquée face à l'impossible, on n'a pas la foi dans le Dieu de l'impossible. Ça démontre que notre plus grand problème face à Dieu, comme toujours, c'est que par orgueil, on se pense plus sage, meilleur que Dieu, puis on pense que telle voie, c'est mieux, cette façon-là, puis on ne croit pas ce que Dieu dit sur lui-même. Si Dieu dit que rien ne lui est impossible, que ce qui n'est pas possible à l'homme, c'est possible à Dieu, bien ça règle la question, c'est fini. Ou pour le mettre sous un autre angle, cette situation te donne de la misère, cette relation, ce péché avec lequel tu luttes et tu n'es pas capable de te débarrasser, il est tellement tenace. Est-ce que tu crois que tu peux tout par celui qui te fortifie? Est-ce que tu crois vraiment que dans ta faiblesse, c'est là que Dieu se glorifie? Est-ce que je le crois vraiment? Puis savez-vous comment on peut le savoir? Je vais me réjouir dans ma faiblesse. Je vais me réjouir au lieu de m'en plaindre, de m'apitoyer, de blâmer les autres. C'est ça la foi dans l'impossible. On dit, Dieu, c'est complètement impossible. Tu sais quoi? Je suis content parce que c'est impossible, donc c'est absolument juste toi qui peux le régler. Il n'y a plus d'apitoiement, il n'y a plus de regarder à nous-mêmes. On regarde à Dieu et on dit, faut que ça soit toi, il y a juste toi qui peux faire ça. Tout ça, ça nous amène non seulement à voir cette foi de Jésus-Christ, mais encore plus, dans les versets 11 à 15, on voit la révélation de la vie de Jésus-Christ. Non seulement ici, il y a une révélation de la foi, hein, qui demande le double, qui limite pas Dieu, mais on voit aussi la révélation de la vie de Jésus-Christ. Regardez les versets 11 à 15. « Comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie! » Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta sur le bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. La révélation de la vie de Jésus-Christ. Tout comme Élie a quitté physiquement Élisée, ok, comme on vient de le lire, mais que son esprit est resté avec lui, l'esprit d'Élie est resté avec Élisée, il en est de même de Jésus et de son Église. Et c'est cet esprit qui témoigne, qui manifeste, qui incarne la vie de Jésus-Christ au milieu de nous autres. Regardez au verset 15. Les prophètes qui étaient à Jéricho, l'ayant vu Élisée, ils ont dit « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent devant lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce que Dieu faisait. Le même esprit par lequel les eaux ont été séparées par Élie, aussi la même chose est arrivée avec Élisée. Donc, de même que les prophètes, dans le verset 15, ont associé la vie, l'esprit d'Élie à celle d'Élisée, ils ont fait le lien entre les deux. Ainsi, l'esprit de Jésus-Christ dans son Église rend témoignage de Jésus-Christ, de sa vie. Écoutez ce que dit encore, vraiment, j'ai beaucoup de versets dans le discours de la Chambre haute ce matin. Jésus qui dit dans Jean 14, 16, et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Écoutez, Jean 15, 26. Et quand il sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui viendra, il rendra témoignage de moi. Voyez-vous, l'Esprit que Dieu nous a laissé rend témoignage de Christ. Et le point, c'est un a remplacé l'autre, mais c'est le même témoignage. Et au verset 13, on a cette image où est-ce que ça dit que Élie a relevé, c'est l'expression ici, a relevé le manteau, Élisée a relevé le manteau d'Élie. C'est un simple signe de sa succession, OK? On ne va pas rentrer dans tous les détails de la symbolique de ça, mais il a relevé le manteau, ça veut dire qu'il succédait, il prenait le ministère. Des fois, nous, on prend, dans notre culture, on prend d'autres expressions, on dit il a passé le flambeau, il prend le flambeau. Bien là, l'idée, le manteau, c'est la même idée, OK? Et donc, ça montre qu'il était son successeur, il a pris son manteau, il se revêtit de son manteau. Et il a pris ce manteau de succession, puis il a partagé les eaux avec, verset 14, pour authentifier, hein? Ça l'a authentifié que c'était bien. Élie, son ministère, le même esprit qui travaille. Bien, de la même manière, Jésus-Christ nous a laissé son esprit, hein, qui est le sceau de notre appartenance, Éphésiens 1, 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Donc, c'est le sceau, le signe d'appartenance. Dieu qui dit, oui, ça, lui, c'est mon enfant. Oui, elle m'appartient. Le Saint-Esprit est le sceau de l'appartenance. Bon, mais de la même manière que l'Esprit de Christ est le sceau de notre appartenance, sa vie qui se manifeste de cette manière, la vie du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit de Christ, dans nous puis à travers nous, c'en est l'authentification. Dieu authentifie. Là, je vais amener un point. Je suis conscient, là, ici, tout le monde qui est assis, on s'entend peut-être pas nécessairement tous sur la nature des marques d'authentification de notre appartenance à Christ. C'est pas tout le monde qui est cessationniste ici. J'ai ouvert une boîte de Pandore. Mais on peut tous s'entendre sur une chose, par contre. Sur le fait qu'il doit y avoir une authentification surnaturelle de la vie de Christ, parce que la vie de Christ n'est pas de ce monde. C'est surnaturel. C'est pas une religion, puis nous on a la bonne, eux autres ils n'ont pas la bonne. Non, c'est la vie de Dieu, c'est Dieu le créateur de toutes choses qui se manifeste par son corps, au milieu de son peuple. C'est surnaturel, ça ne vient pas d'ici-bas. Ça vient d'en haut. C'est pour ça que ça nous parle du fruit de l'Esprit dans Galates, au chapitre 5. Et j'ai cité tantôt que la grâce de Dieu nous suffit parce que cette puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ça l'authentifie. Regarde comment il est faible. Regarde comment elle n'a rien en elle-même. Mais Dieu manifeste sa puissance dans cette faiblesse. C'est ça toute l'idée. Où Jésus qui a dit qu'il donne sa vie en abondance, elle regorge. Puis là, je vais pas mal piler ces orteils de tout le monde, là. Mais tout le monde, on est tous tombés dans le piège de rechercher à s'auto-identifier. Ah, nous, on fait ça de même, nous, on est de Dieu. Non, nous, on le fait de même. Puis qu'on soit honnête, il y a tout de l'hommerie là-dedans. On a voulu s'auto-identifier sans l'authentique, surnaturelle présence de Dieu. Parce qu'humainement, on peut bien s'énerver et on peut faire toutes sortes d'affaires. Mais Dieu, c'est Dieu, puis c'est Dieu qui authentifie Dieu. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui s'authentifie lui-même. C'est son esprit qui dit, c'est bien de moi. Puis en passant, l'authentification, c'est pas pour nous, ni par rapport à nous. C'est pour Dieu, puis c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Parce que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Puis Jésus, la pleine révélation de Dieu et l'Esprit, comme on l'a vu, il nous amène toujours à Christ, qui est la pleine révélation de Dieu pour sa gloire. C'est pour ça qu'il faut que Dieu révèle ce qui est dans le cœur de son Église pour que rien n'empêche, pour que rien ne bloque ce but ultime que Dieu a avec toute chose, sa propre gloire. Parce que Dieu est tout puissant, puis il est capable de faire ce qu'il veut, mais il a décidé, il a limité, il a vraiment limité à cause de nous l'expression de cette gloire à travers l'instrumentalité humaine. Tu sais, Dieu pourrait se glorifier bien plus. Tu sais, Dieu pourrait faire, tu sais, on pourrait tout être des supermans de la foi, mais Dieu a choisi de faire habiter cette gloire dans des vases de terre. pour que la gloire revienne à lui. Pourquoi justement que les gens disent au revoir, c'est des Superman, ils disent, hey, non, c'est un super Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un vase de terre, puis la gloire brille dans ce vase de terre. Voilà pourquoi ça m'amène au troisième et plus important point de ce message, parce que c'est celui qui touche le plus près notre but et notre désir d'atteindre cette gloire. Parce que si on est un enfant de Dieu authentique, notre plus grand désir, c'est de glorifier Dieu. Amen? C'est pas de nous montrer comment qu'on est donc bon, comment qu'on est donc fin, mais montrer comment notre Dieu est donc grand puis est donc merveilleux. Et donc, le troisième point, après la révélation de la foi de Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ, la révélation du fruit de la vie de Christ. Regardez le verset. Ben, juste pour continuer avec le texte, là, on va surtout se pencher sur un verset, mais lisons d'abord à partir du verset 16. Il lui dit, et ça c'est les prophètes, là, il lui dit, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais il le pressa longtemps et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. » Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Et il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et il le lui apporta, et il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élie avait prononcée. La révélation du fruit de la vie de Christ. Au verset 19, on apprend que le séjour de la ville était bon, mais les eaux étaient mauvaises et stérile. Je vois là-dedans une puissante illustration, une image d'un chrétien charnel, infructueux, qui garde les apparences, mais qui est détaché de la source d'eau vive. Verset 21. La source de la vie qui est en Jésus-Christ, c'est un chrétien qui ignore ou qui néglige la vie de Jésus-Christ en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas à la lumière de son union avec Christ. Il ne vit pas comme Paul le dit, « Si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et ici, l'image est importante, parce qu'au verset 20, on voit que c'est avec du sel que la purification se fait. Et c'est un agent purificateur à l'époque. Hein? On sait que ça l'empêche la corruption et tout ça. C'est un type de la purification de Christ, de son sang. Et il va à la source des eaux pour aller purifier. Et ça, c'est un type de la vie de Christ. Parce que Jésus lui-même a parlé de sa vie comme étant une source d'eau vive. Ça nous dit le dernier jour de la grande fête, dans Jean 7, que Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Christ est la source qui fait que des fleuves d'eau vive coulent de nous. Donc l'image ici, c'est le fruit de la vie. Voyez-vous, il y avait de la mort, de la stérilité, mais Christ intervient, puis il y a la pureté, une pureté parfaite. Hein? Le sang de Christ nous purifie de tout péché, puis une vie abondante, fructueuse, une source qui ne tarit pas. Maintenant, il y a beaucoup de contrefaçons chrétiennes. On met des ajouts, du maquillage. Un peu comme au centre funéraire, on peut maquiller un mort, mais ça reste un mort. Parce que lorsque tout le superflu est enlevé, on voit vraiment c'est quoi la réalité de ce qui reste. Et c'est ce que Dieu a fait avec son Église en 2020. Il a enlevé le superflu, il a enlevé le maquillage. On a découvert des cadavres, mais on a aussi découvert qu'il y avait un reste, qu'il n'avait pas fléchi le genou devant Baal, puis qu'il criait à l'Éternel, puis qu'ils ont dit, « Wow, Dieu, on avait besoin de ça. » Maintenant, je peux poser la question ici, comment est-ce que toi, t'évaluerais le fruit de la vie de Christ dans ta vie? Attention, là, j'ai pas dit le fruit de ta sincérité, le fruit de ton amour, le fruit de tes efforts, mais bien le fruit de la vie de Christ, la sienne. Le chrétien moderne s'est tellement éloigné de la source des eaux vives, comme dans Jérémie, hein? Jérémie 2,13. « Car mon peuple a commis un double péché, il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » On s'est tellement éloigné de cette source d'eau vive qu'on est surpris, on est émerveillé lorsqu'on voit, on rencontre le fruit de cette vie à quelque part. On dit « Wow! » Alors que ça devrait être la norme, on ne devrait pas être surpris. On devrait être surpris de l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné, on s'est refroidi par rapport à celui qui est la source d'eau vive. Et ainsi, on s'est retrouvé à essayer à combattre, écoutez bien ce que je vais dire, on s'est retrouvé à essayer de combattre la mort. Tu sais, les fruits de la chute, là, toute la mort qu'on peut voir dans nos vies, avec un instrument de mort, c'est-à-dire notre chair. Ça fait juste plus de mort. On vainque la mort avec la vie intarissable, une vie que rien ne peut tuer. C'est ça, c'est la vie de Christ. Et qu'est-ce que ça l'a donné? À combattre la mort avec la mort, ça a donné la stérilité. Pas de fruits. Pas de fruits. C'est ça que ça dit, hein? Le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Puis le pays est stérile. Quelle image de l'Église sans la vie de Christ. Mais gloire à Dieu, les eaux ont été assainies. Gloire à Dieu, Dieu a envoyé son Fils. Gloire à Dieu, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Dieu, est dans sa grande bonté, est intervenu pour nous sortir de la fosse que nous-mêmes on creusait. Et selon ici, ce qu'on peut dire, ça dit que les eaux ont été assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Élisée est un prophète de l'Éternel, selon sa parole. C'était la parole de Dieu qui est la parole de vie. Et à chaque fois qu'on croit à la parole de vie, qu'on ajoute foi, qu'on met notre confiance dans la parole vivante de Dieu, elle a le pouvoir de produire la vie. C'est par la foi qu'on va voir cette vie se manifester, le fruit de cette vie. C'est pas plus compliqué, c'est pas en essayant plus fort, c'est en se confiant dans cette vie. Je vous lis deux versets dans Hébreux 4 à ce sujet. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » Et cette parole, la Bible nous dit juste quelques versets plus loin, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, comment tu réponds à cette parole ce matin? J'espère que vous vous rendez compte que le but de l'exercice ce matin, c'est pas d'entendre ma parole, c'est d'entendre la parole du bon berger, d'entendre sa voix. Puis j'essaie d'être le moins d'ingénieux possible. Mais comment on répond à la voix de Dieu? Est-ce qu'on place notre confiance? Est-ce qu'on croit à cette parole de vie qu'on entend? Est-ce qu'on est convaincu que si on s'y confie, ça va produire du bon fruit? Tellement puissant que ça l'écrase la puissance de la mort. C'est ça dont on parle ce matin. Ce n'est pas de la théorie, c'est ça la marche chrétienne. C'est un fruit de vie qui est plus fort que la mort. Est-ce qu'on croit que cette parole brise comme un marteau les cœurs les plus durs, restaure l'âme, les relations les plus brisées? Je vais vous citer un verset que j'aime bien citer au ministère de prison. Je leur dis, je vais vous dire pourquoi je suis ici. Puis là, je prends soin de leur rappeler, ça c'est pas moi, là, c'est Jésus. Puis je leur dis même que Jésus a lu cette parole lorsqu'il était dans la synagogue à Capernaum. Et ça dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est la mission de Jésus de venir restaurer ce qui a été brisé par la chute. Et sa parole, c'est elle qui nous qui nous amène là, parce qu'elle nous révèle Dieu, elle nous révèle Christ. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'y confier, d'y croire, voir que c'est notre salut, que c'est notre paix, c'est notre délivrance, c'est notre vie même. Parce que la parole de l'Éternel, du Dieu vivant, du Rédempteur, est celle de celui qui, là où il y a un mur, il fait une brèche. Qui, là où est-ce que le vase est brisé, il en fait un nouveau. Écoutez, ça dit dans Michée 2:13. J'ai lu ça chez vous l'autre jour. C'est beau. Les garder en souvenir. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Il fera la brèche, franchira la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera leur tête. L'image ici, c'est qu'il y a des blocages, il y a des choses qui s'élèvent devant nous. On peut dire des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et lui-même brise ces choses, il fait une brèche, Dieu brise les obstacles. Puis avec le vase qu'il faisait ici dans Jérémie 18, qui est descendu dans la maison du potier, en l'observant, il voit que le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Dieu fait ça. Dieu est capable de le faire. Est-ce qu'on le croit? Ce n'est pas juste des belles paroles que je vous dis ce matin. C'est notre vie. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre. S'il n'y a pas ça, on est un club social, tous semaine, d'aller faire d'autres choses dimanche matin, on peut aller jouer au golf ou je ne sais pas trop. On n'est pas ici pour nous-mêmes. On est ici pour le Dieu de gloire qui fait l'impossible. Et Dieu révèle ces choses en ce moment. Et notre seul espoir, le seul moyen que ça puisse arriver, c'est de s'humilier devant ce Dieu. Et de croire. Ça m'amène au verset 23 et 25 qui nous donne une conclusion sur une note d'avertissement. Regardez bien ce qu'on peut lire ici, on l'a lu tantôt, mais ça dit « Il monta de là à Bethel, c'est Élisée ici, et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il disait « Monte chauve, monte chauve! » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt. Il déchira 42 de ses adolescents. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. C'est un passage de l'Ancien Testament, on comprend. Autre temps, autre mœurs. Mais il y a une leçon ici, un avertissement contre l'esprit de moquerie. Il se moquait. Et on voit c'est quoi le résultat. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez, Proverbe 15-12. « Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va pas vers les sages. » Ou encore dans Proverbe 9:7, « Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. » Un esprit de moquerie, de mépris, dont nous devons tous nous garder, mais je devrais dire ici qu'il y a une application spéciale aux jeunes, parce qu'ici ça nous dit que c'était des jeunes. Il dirait que c'est un piège auquel les jeunes sont plus exposés. C'est-à-dire une attitude face à l'autorité parentale, l'autorité en général. Attention, parce que bien sûr, il n'y a pas d'autorité parfaite, il n'y a pas de parent parfait. Il n'y a pas de mari parfait. Il n'y a pas d'église parfaite, de pasteur parfait. Il n'y a pas d'autorité parfaite. Mais n'oublions jamais, écoutez bien, n'oublions jamais que Dieu a placé ces personnes-là dans nos vies pour nous communiquer la parole de vie. Aussi maladroitement et incomplètement ça puisse être. Donc attention de ne pas rejeter les paroles de vie à cause de l'instrument que Dieu a décidé d'utiliser. Puis Dieu, justement, des fois, il veut prendre un instrument qui peut nous déplaire, mais pour que, justement, humblement, on voit au-delà de l'instrument, qu'on voit le Dieu qui se sert de cet instrument. Parce que si j'ai cette attitude de moquerie, de mépris face à ceux que Dieu a placé en autorité, c'est au profit de quoi? C'est pour quel fruit? Si je prends cette attitude-là, est-ce que ça va produire du fruit spirituel ou le fruit de la chair? Peut-être que Dieu même ce matin veut mettre le doigt sur cette attitude dans ta vie, que tu sois jeune ou moins jeune, pour montrer que tu ne possèdes pas l'esprit de Dieu qui est un esprit de soumission. Je vous lis dans Éphésiens, tu sais, ce passage qui nous dit que soyez remplis de l'Esprit. On s'entretient par des psaumes, des hymnes, puis ça dit on rend continuellement grâce à Dieu. Mais regardez au verset 21, un signe de la une manifestation de l'Esprit de Dieu dans son enfant, c'est la soumission. Ça dit au verset chapitre 5, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si c'est ton cas, puis que Dieu montre que tu n'as pas cet esprit d'humilité, de soumission, tu dois t'humilier devant celui qui te le montre et confesser. Savez-vous ce que ça veut dire, confesser, dire la même chose? Dieu dit c'est un péché, Dieu dit c'est non, c'est pas correct, non, c'est pas si pas grave. C'est dire oui, Dieu, oui, c'est grave, oui, je suis entre toi puis l'œuvre que tu veux faire. Je veux renverser la vapeur, pas la vapeur, mais les renverser les choses d'abord. Est-ce que moi, dans ma position d'autorité, je suis dur envers les autres? Je demande la grâce de Dieu! Mais je suis là pour la donner aux autres. Je veux que Dieu me traite selon la grâce, mais je traite les autres selon la loi. Savez-vous, quand on fait ça, on est un obstacle entre Christ et la personne. Savez-vous, je suis content que Dieu fait une œuvre de grâce ici. Puis je pense que les gens viennent ici à cause de Christ. Les gens sont attirés à Christ parce qu'il est, il est parfait, il est bon, c'est beau ce qu'il fait, c'est attirant. Que personne ici ne soit un obstacle à cause de son attitude de loi, de mépris, de dureté entre cette personne et Christ. Les parents, les couples, qu'on retienne ça. C'est vraiment... Vous savez, Dieu fait une œuvre authentique. C'est attirant, c'est beau. Savez-vous qu'on peut être ceux avec mon attitude? Parce que quoi, quand je traite les autres selon la loi, je les traite selon la vérité. Parce que la loi nous montre, tu ne l'as pas, t'as raté. Mais quand, si c'est tout ce que je veux, si je ne vois pas Christ qui est plus fort que le péché, si je ne vois pas Christ que là où le péché abonde, sa grâce surabonde, parce que la loi, elle est bonne, puis elle nous dit, effectivement, il y a du péché. Effectivement, ton mari, ta femme, tes enfants, ils ne l'ont pas. Tes parents, ils ne l'ont pas. C'est ça que la loi nous dit. Elle a raison. Mais si je vis là, puis si c'est tout ce qui éclaire mes relations, non seulement ça va être l'échec, ça va être la catastrophe. Puis je vais être entre Christ et cette personne. C'est mon appel d'ailleurs. Combien Dieu est bon, il est fidèle de révéler le cœur de l'Église. N'est-ce pas ce qu'il a fait? N'est-ce pas ce qu'il a fait? Ici dans l'Église, de révéler le cœur de notre Église. Pour dire, attends un peu, là, qu'est-ce que vous voulez? Là? Voulez-vous tout être beau, tout pareil, puis tout ça? Ou vous me voulez moi? Je pense que les gens qui sont ici, c'est quoi qui nous unit? C'est qu'on veut tout Dieu. On le veut lui. Puis j'avais jamais compris ça avant. On était peut-être uniformes. Mais là, on n'est tous pas pareils, mais on est unis. Ça, c'est beau. Ça, c'est Christ. C'est lui qui fait ça. C'est ça qui est attirant. Puis tant mieux qu'on n'est pas pareil et qu'on n'est pas uniforme. Parce que Dieu est comme ça. Dieu, c'est bien plus beau quand lui, il le fait. Je me dis, wow! On ne devrait pas fitter ensemble. Mais c'est Dieu qui le fait. Ça a même sorti dans la prière ce matin. Tu sais, on est unis à Christ. Puis en tant que con, on est unis les uns aux autres. Personne ne peut défaire ça. Ils peuvent nous séparer, nous mettre en prison chacun de notre bord. Mais l'amour de Christ qui nous unit, puis la prière pour les autres, donc t'as beau être en prison, il n'y a rien qui va te faire ça. Je vais continuer d'aimer mon frère, ma soeur, parce que c'est Christ qui nous a unis ensemble. C'est ça que Dieu fait ici, c'est ça qui nous tient ensemble. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. C'est dans le contexte du mariage, certainement. Ça peut aussi s'appliquer dans celui de l'Église, Christ et son Église, son épouse. Donc, un dernier mot ce matin. On a eu une belle image devant les yeux. Vraiment comme Christ et l'Église, n'est-ce pas? Avec Élie et Élisée. Moi, je ne l'avais pas vu avant. Ça me l'a montré, puis je suis content de pouvoir l'avoir partagé. Ça donne bien, moi, des fois, le Seigneur me montre des choses, puis je peux vous en parler un beau dimanche matin demain. Mais c'est plus que ça, mes amis. C'est plus que des belles paroles, une belle histoire, une belle image. Mes amis, c'est notre vie. Dieu nous montre ça pour lui, pour sa vie, pour son œuvre. Donc, laissons-le faire. Confions-nous dans ce qu'il veut. C'est ce qui est merveilleux quand on prêche la parole du Dieu vivant, l'Esprit du Dieu vivant. Il parle à chacun ici selon exactement ce qu'il a besoin. Puis moi, je ne sais pas c'est quoi, j'en ai aucune idée. Puis je ne veux même pas essayer de deviner. Mais une chose, par exemple, c'est que Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand il parle, il ne suggère pas de croire. Il ne suggère pas d'ajouter foi à ce qu'il vient de dire. Il l'ordonne. Donc, que ces paroles ne tombent pas dans un cœur dur, dans une oreille endurcie, mais dans un cœur disposé, un terreau fertile pour qu'il puisse se glorifier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour le peuple que tu as rassemblé ici ce matin. Seigneur, réellement, on veut te rendre gloire parce que tu es patient, tu es bon, tu es vivant. Et Seigneur, merci que tu as révélé ce qui est dans le cœur de ton Église. Et quand on regarde pour nous, c'est vraiment pas beau. C'est tortueux, méchant au-dessus de tout. Mais Seigneur, en même temps, ta grâce nous révèle que la foi de Christ est ici, sa vie est là, le fruit de sa vie. Tout ça aussi est là. Et Seigneur, c'est à ça qu'on regarde et c'est ça qu'on veut voir grandir. Parce que Seigneur, c'est toi qu'on désire. Merci Seigneur pour le fait que c'est authentique ce que tu es en train de faire. Et Seigneur, on veut en aucune façon être un frein à ce que tu fais. Tu nous as sortis de ce qui nous détruisait. Oh, protège-nous d'y retomber. Seigneur, alors qu'on s'apprête à prier, on veut prier dans cet esprit de veiller et prier afin de ne pas tomber dans cette tentation. Ah, parce que notre esprit est bien disposé ce matin. Mais tu sais, tu le vois, et on le sait aussi, notre chair, elle est faible. Donc, on se confie en toi, notre force, notre vie. Seigneur, fais ta volonté, glorifie ton nom. Sauve, délivre, restaure pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.